when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bienvenue sur Parfaitement Imparfait, le podcast pour accompagner les perfectionnistes à prendre leur place, s'enthousiasmer et oser. Je suis Delphine Guiroche, votre hôte, coach certifié en développement personnel et professionnel, formatrice et conférencière. Ma mission ? Vous donner des clés pour introspecter et passer à l'action. Parce que la vie est trop courte pour se cacher derrière son perfectionnisme, douter, ne pas s'autoriser à faire d'erreurs ou à être soi. Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un épisode de podcast un petit peu spécial avec une invitée pour changer un petit peu parce que j'en ai marre de parler toute seule depuis une quinzaine d'épisodes. Et j'ai choisi pour nous parler de son rapport au perfectionnisme une personne que j'aime beaucoup qui m'avait déjà invitée à son propre podcast. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Alexane Renaud, qui a de multiples casquettes, qualités et compétences. En fait, Alexane, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, est consultante et formatrice en communication digitale, si je ne me trompe pas, elle va corriger, et insertion professionnelle. Elle est également fondatrice de l'agence de communication Come on the Moon, créatrice du super podcast Talks on the Moon. Le nom a changé il n'y a pas longtemps, donc il ne faut pas que je dise de bêtises. Et elle est également professeure de yoga. Bonjour Alexane, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Delphine, merci beaucoup. C'était parfait comme présentation. Je suis contente qu'on échange les rôles aujourd'hui, en tout cas.
Oui, et je vois que tu as dit parfait. Donc, on est dans le vin directement. J'aime bien ces petites remarques de dire déjà ça c'est parfait ou ça c'est imparfait. Ces petits mécanismes inconscients qu'on glisse un petit peu dans toutes nos conversations sans s'en rendre compte, mais qui sont, je trouve, très intéressantes à décrypter.
Allons-y, alors décryptons ce pourquoi j'ai dit parfait.
ce qui m'a intéressée aujourd'hui, c'est ton regard au perfectionnisme en tant que professionnelle. Surtout parce que, on l'a dit, tu as plein de casquettes et tu accompagnes des gens à améliorer, à booster, on va dire, leur communication. Et j'étais intéressée par avoir ton point de vue sur ces deux pans. Comment tes clients vivent éventuellement leur perfectionnisme ? Comment toi, tu les accompagnes à changer l'image qu'ils ont de leur entreprise ? Et comment, avec tout ce que tu fais, t'arrives éventuellement à ne pas aller vers la perfection. Parce que je trouve que quand on travaille sur l'image de soi ou des autres, on a souvent tendance à vouloir donner une image très très lisse. Et ce que j'adore moi dans ta com, c'est justement cette marque de fabrique qui est très forte pour moi autour de l'authenticité. Et au final, plus j'apprends à te connaître, plus je me rends compte que quand même, il y a des petits travers perfectionnistes malgré cette image très authentique. Alors voilà, j'avais envie un petit peu de creuser avec toi ça aujourd'hui. J'ai envie de te poser comme première question, est-ce que déjà tu te définis comme quelqu'un de perfectionniste au plan personnel ou professionnel ?
Bon, c'est un vaste programme déjà, parce que j'aime bien l'analyse que tu as faite de cette communication et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va pouvoir rebondir, ça va être hyper riche. Mais pour répondre à ta question, je crois que je me considérerais avant, donc au passé, comme quelqu'un de perfectionniste. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, parce que justement, comme tu l'as très bien dit, j'ai de multiples casquettes et que si on veut être parfait, entre guillemets, je le mets bien entre guillemets, sur toutes ces casquettes, c'est juste impossible pour un humain. Et enfin voilà, on reste humain et c'est surtout ça qui est important. Et j'aime bien aussi le fait que tu aies souligné cet aspect d'authenticité parce que tu en as parlé dans plusieurs de tes épisodes, mais souvent, le perfectionnisme est relié à l'image qu'on renvoie ou qu'on veut renvoyer. Et donc du coup, on vit dans un monde et dans une société où on nous dit « oui, il faut être à 100 à l'heure, il faut faire ci, il faut faire ça ». Il faut faire plutôt qu'être. Et moi, ben, cette phrase, elle est hyper importante pour moi. Et le mot authenticité, il est dans mon slogan, il est dans les valeurs de Come on the Moon parce que j'ai vraiment envie de l'incarner. Et c'est ce que je dis à mes clients. Si vous incarnez pas vos valeurs et que vous les mettez juste sur votre site, ça n'a aucun sens, en fait. Ça sert à rien. Et l'authenticité, c'est un peu aux antipodes du perfectionnisme, en fait, parce que, enfin, je trouve, alors, bien sûr, j'ai des petits aspects perfectionnistes qui reviennent, parce qu'il y a des fois où je me dis, non, mais j'ai envie de faire ça, 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 comme ça, etc., et je vais passer des heures sur un visuel, alors que, ben, en fait, il va pas avoir l'impact que je souhaite, etc., mais à contrario, je pense que je suis moins dans cette recherche de perfection qu'avant, parce que je sais que tout est éphémère, en fait, et notamment sur nos réseaux sociaux, etc. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question.
Absolument, ça répond très bien. Donc, il y a eu un avant et un après. Alors, et qu'est-ce qui a marqué peut-être, si tu as envie de le partager, cet avant et après, peut-être une prise de conscience ?
C'est une très bonne question.
Les accompagnements que tu fais et qui t'ont fait réfléchir et évoluer dans la direction.
Ouais, je pense qu'il n'y a pas eu de... En tout cas, il n'y a pas eu de déclic avant, après, tu vois, très marqué. Mais je pense que c'est le cheminement qui a fait que, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas possible, en fait, de me mettre l'exigence que j'avais dans ma tête, que c'était pas réalisable, en fait. Et de plus que j'avais envie d'explorer plein de projets, d'accompagner des personnes vraiment différentes et qu'au bout d'un moment, bah, en fait, si je prenais à mes clients de s'écouter, il fallait aussi que moi, bah, je l'applique parce que en fait, ça aurait pas été crédible, entre guillemets, de dire à mes clients « écoutez-vous, soyez authentiques » si moi derrière, bah, je l'étais pas de mon côté. Bon, je pense que ça a toujours été le cas d'être quelqu'un qui avait envie de divulguer des choses, de partager, etc., de vulgariser aussi. Et dans cette vulgarisation, je pense que c'est important et je trouve que du coup, le mot vulnérabilité entre aussi en ligne de compte dans tout ce qui est authentique. Parce que, ben, par exemple, le jour où j'ai décidé de lancer mon podcast, je me suis pas posé 1000 fois la question de « je vais lancer mon podcast, comment, il faut que je me forme, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Non, je me suis dit, en fait, j'ai envie d'interviewer, à la base, c'était ça, mon podcast, c'était d'interviewer des profs de yoga, tu vois, tu l'as dit au début, il a changé de nom, il a changé aussi de cible plusieurs fois, etc. Et donc, j'ai interviewé des profs de yoga sur leur parcours. Et donc, le jour où je me suis dit, j'ai envie d'interviewer, j'ai envie de le faire sous forme de podcast, le lendemain, j'ai interviewé la première personne et le surlendemain, l'épisode sortait. Enfin, voilà, le premier épisode, j'ai pas fait d'épisode d'intro, je l'ai fait beaucoup plus tard, j'ai fait vite fait ma charte graphique et en fait, c'était inné pour moi de faire des identités visuelles parce que c'était mon métier. Donc, tout ça, c'était facile, entre guillemets. Et puis après, je me suis rendu compte que, ah mince, ça va me demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de faire des épisodes. Mais j'ai quand même tenu pendant plus d'un an avec un épisode par semaine et c'était hyper riche parce qu'en fait chaque épisode était le moyen de perfectionner entre guillemets encore une fois les audios, de perfectionner les épisodes, de moi m'améliorer, de retravailler en fait le brouillon que j'avais sorti au tout départ. Et des fois je réécoute le premier épisode et je me dis bah en fait oui il est certes pas aussi bien entre guillemets et encore une fois c'est qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est pas bien que aujourd'hui mes épisodes Mais d'un autre côté, le jour où il est sorti, bah en fait, tout le monde était très content de l'écouter et personne m'a fait de retour sur la qualité de l'audio. Ou voilà. Par contre, après, quand tu commences à t'installer dans le monde du podcast et donc à être, entre guillemets, reconnu pour ça, forcément, il y a des personnes qui viennent te dire « Oui, tel épisode, on n'entend rien, tel machin, tel truc. » Et donc, du coup, bah, encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que les personnes qui sont capables de critiquer, ce n'est pas forcément la communauté et les personnes qui vont écouter. Donc, je pense que je pars un peu dans tous les sens, mais voilà.
Alors, non, j'adore tout ce que tu nous dis parce que t'embrayes sur plein de questions que j'avais à te poser. Tu nous livres déjà des super tips que j'adore sans t'en rendre compte. C'est la nuance entre perfectionner, développer et développer en fonction de la personne que tu es au moment où tu le fais. C'est-à-dire, j'ai une phrase que moi j'aime beaucoup, c'est tu fais ce qui est juste pour toi au moment où ça l'est en fait. Le lendemain, la semaine suivante, t'es déjà plus la même personne. Parce que, comme tu l'as dit, t'as une meilleure prise en main du logiciel, t'as une vision plus affinée de ce que tu souhaites proposer, de où tu veux emmener tes auditeurs, etc. Et donc, c'est super chouette parce qu'en fait, finalement, ça résume ce qu'on a déjà dit avec l'authenticité. Ce qui, pour moi, est anti-perfectionnisme, c'est l'authenticité d'une part, et tester, y aller. Parce qu'en plus, c'est incroyable ce que tu dis, c'est que tu t'es lancé en 2 secondes et demie sur le podcast sans réfléchir ni aux conséquences, ni à la forme, etc., juste sur le plaisir. Et pour moi, c'est ça qui est méga important. En fait, c'est rester sur ce qui nous fait kiffer, sur ce qui nous met en joie. Et on se pose pas de questions, juste on y va, tu vois. C'est la méthode des 5 secondes sans que tu comptes les 5 secondes de Mel Robbins, quoi. Allez, go! Et puis, on verra, advienne que pourra. Et ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, on sort vraiment des injonctions et juste on fait ce qu'on a envie. Et peu importe si le son, il n'est pas quali, peu importe si ça ne plaît pas à Pierre-Paul Jacques, ben nous, en fait, on s'est réalisé et c'est ce qui compte le plus, en fait, pour moi dans nos vies. Donc, j'adore les exemples que tu nous as donnés. Merci infiniment. Et alors, si on revient un petit peu sur la notion de perfectionnisme, est-ce que tu aurais une définition personnelle du perfectionnisme ? C'est quoi pour toi le perfectionnisme ?
Ça aussi, c'est encore une question difficile. On a le temps. Qu'est-ce que c'est pour moi le perfectionnisme ? Quand tu parlais, j'avais en tête de dire que j'ai l'impression que on n'est pas perfectionniste sur tout, mais qu'on peut être que sur certains aspects de sa vie ou certaines actions, parce qu'on a telle habitude ou telle envie que les choses soient faites comme ci ou comme ça. Si je dois comparer, par exemple, dans mon quotidien à mon conjoint, qui, lui, est militaire, comme tu le sais, il a sa notion de perfectionnisme parce que, pour lui, il faut que tout soit carré, tout soit rangé. Et moi, ma notion de perfectionnisme, ça va être que je vais ranger, mais à ma manière. Et pour lui, c'est un bordel sans nom. Mais, par exemple, j'ai mes fringues de la semaine qui sont sur une chaise et à la fin de la semaine, la chaise est remplie. Mais à la fin de la semaine, je vais mettre à laver, quoi. Parce que c'est pas forcément sale tout de suite, je peux le remettre une deuxième fois, patati patata. Bah lui, non. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas avoir sa chaise, il va, à la fin de sa journée, mettre ses habits au sale et puis basta. Parce qu'il considère que c'est sale. Et il les met directement dans la machine. Et moi, j'aime pas ça parce que je me dis, on a un sac à linge sale. Enfin voilà, tu vois, on a chacun nos petites habitudes. C'est des exemples concrets du quotidien, mais j'ai l'impression que cette notion de perfectionniste, perfectionnisme, elle est propre vraiment à chacun et elle n'est pas présente sur tous les aspects de notre vie. Il y a quelqu'un qui va adorer cuisiner et qui va adorer surtout dresser des assiettes hyper belles, hyper jolies. Bah ça, c'est son perfectionnisme. Moi, quand je cuisine, y en a partout, mais je finis par ranger à la fin et ma notion de perfectionnisme, c'est ça, c'est de ranger à la fin. Il y a des gens, ils s'en fichent. Ils vont pas ranger, ils vont attendre que ça s'entasse dans le lavabo et puis voilà. Donc, je pense que, en tout cas, être perfectionniste pour moi, c'est avoir des espaces de ta vie où tu as une notion très très claire de ce que tu veux obtenir comme résultat et donc tu fais tout pour obtenir ce résultat. Ouais, je pense que c'est ça. Mais du coup, je n'ai pas lu la définition du perfectionnisme dans le dictionnaire avant de venir dans cet épisode, donc tu me diras si c'est ça ou pas. Et j'imagine que tu es d'accord avec le fait que chacun peut avoir sa notion de perfectionnisme.
Oui, merci. Effectivement, le dictionnaire définit le perfectionnisme comme un souci exagéré de la perfection, donc il renvoie au mot perfection. Mais c'est le fait que c'est exagéré, donc ça n'a pas besoin d'être dans tous les domaines de notre vie. Effectivement, la plupart des personnes perfectionnistes le sont dans un cadre bien précis. Donc à l'armée, effectivement, on nous apprend un cadre où il faut que ça aille vite, il faut que ce soit rangé pour la collectivité. Donc j'ai envie de dire, il répète ce qu'on lui a appris, peut-être qu'il était avant et que ça a augmenté, mais c'est quelque chose qu'on lui a demandé de faire. Il répond à un besoin, en fait, du cadre dans lequel il travaille. Et souvent, justement, on s'en rend pas compte, mais on a tous un cadre et des besoins cachés derrière notre perfectionnisme. Donc c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, effectivement, quand je cuisine, c'est un bordel son nom et mon mari, il n'est pas content du tout. Et lui, il va suivre une recette à la lettre, tu sais, mais au gramme près. Moi, je suis incapable déjà de mesurer des grammes, des litres, ce que tu veux. Et moi, je suis incapable de prévoir à l'avance ce qu'on va manger, tu vois. Donc, je vais prendre dans le frigo et je suis très créative en cuisine. Je suis capable de te faire des trucs super sympas avec ce qu'il y a dans le frigo, mais je ne fonctionne que comme ça. Et par ailleurs, sur d'autres domaines de ma vie, je suis hyper contrôlante. Parce que j'ai pas besoin d'être assurée en cuisine, c'est pas important pour moi, c'est le partage. La première valeur de la cuisine, pour moi, c'est le partage. Du coup, je suis pas perfectionniste là-dessus. Donc c'est bien de donner des exemples concrets. On peut être perfectionniste et pas perfectionniste, en fait. C'est pas une fin et une globalité, absolument pas. Et si on continue donc sur des exemples concrets, est-ce que tu as remarqué des exemples de perfectionnisme chez tes clients peut-être qui t'ont fait des demandes particulières?
Oui, il y en a beaucoup. À partir du moment où en fait tu es client, du coup tu rémunères une personne pour faire un travail, tu as une attente. Et donc à partir du moment où tu as une attente, forcément, si ce n'est pas fait comme toi tu l'avais imaginé, tu te dis, mais je paye cette personne pour rien. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour tous mes clients, hein, mais en fait, je pense que c'est en fait, cet échange d'offres et demandes qui induit justement que la personne a une demande et qu'elle demande à un expert ou à une personne de réaliser quelque chose. Forcément, dans sa tête, elle a un attendu. Et donc, si cet attendu, le résultat ne correspond pas à l'attendu, forcément, il y a je te montre avec mes mains, mais personne ne va le voir, mais il y a finalement un écart entre les deux. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de faire l'erreur, moi, alors je fais toujours, avant de démarrer une prestation avec un accompagnement avec un client, je fais toujours un point, voilà, comme là on l'a fait, on prend rendez-vous dans le Calendly, dans l'agenda, et je fais un point gratuit de une demi-heure, voire une heure, et parfois même on a deux ou trois échanges avec la personne avant de contractualiser, parce que il y a le temps de faire le devis, les échanges, les négociations, les patati et les patata. Et donc du coup, à partir de ce premier échange, moi, je pars du principe que normalement, j'ai cerné le besoin de la personne et que je peux lui faire son devis et que je peux, du coup, lui proposer un accompagnement qui lui correspond. Sauf qu'il y a toujours un mais. On cerne pas toujours correctement une personne parce que des fois, la personne te dit qu'elle pense être bon pour elle. Donc moi, mon rôle, c'est d'essayer de voir entre les lignes et de trouver ce qui est vraiment bon pour elle au vu de ce qu'elle me dit et de sa situation. Donc ça, OK. Mais il y a parfois des gens aussi qui sont un peu dans le déni de ce qu'ils ont réellement besoin ou parce qu'ils veulent économiser sur tel plan, du coup ils disent OK, tant pis, on prendra pas cette ligne, mais on prendra cette ligne du devis, alors qu'en fait c'est pas ça qui lui correspond. Et moi, mon erreur sur certaines fois, voilà, mais c'est bien parce que du coup on apprend, ça a été de dire OK, on enlève cette ligne, mais sache que par exemple, moi je ne suis pas commerciale, donc je pourrais pas t'apporter des nouveaux clients, je suis communicante, donc je vais développer ton image de marque positivement. Mais par contre, si tu me dis, OK, t'as pas besoin d'une nouvelle identité visuelle et qu'on la fera dans le temps en animant les réseaux sociaux, OK. Sauf que, il s'avère que, par exemple, pour ce cas-là, la personne avait finalement besoin de quelqu'un pour refaire son identité visuelle avant même de publier sur les réseaux sociaux. Donc, on a passé 3, 4, 5 heures sur un visuel qu'on devait publier sur les réseaux sociaux, ce qui a décalé complètement notre calendrier. Et donc, toute notre organisation. Et du coup, au bout de 1 ou 2 mois, on s'est dit d'un commun accord, écoute, là, ça ne fonctionne pas. Et moi, du coup, ça m'a permis aussi pendant ces 2 mois de repérer en fait ce que j'avais loupé au départ, de se dire, Oui, en fait, au départ, le besoin était je veux refaire mon identité visuelle et publier sur les réseaux sociaux, mais je veux refaire mon identité visuelle en même temps qu'on publie. Donc, il n'y a pas de recréation, c'est une adaptation de l'identité visuelle. Sauf qu'il s'avère que pendant ces deux mois, en fait, c'était vraiment une recréation. Et donc, en fait, parfois, pour économiser, un client va te dire, voilà, je veux pas ça, mais par contre, on va faire ça. Donc, on économise du budget, ok. Mais finalement, on va droit dans le mur parce que on a pas bien étoffé, enfin on a bien pas bien étudié en fait le besoin. Tu dois te demander à quoi ça fait référence au perfectionniste, parce que justement à cause de ça, à cause de ne pas avoir bien repéré le besoin de la personne et ne pas avoir et avoir accepté de dire oui à cette demande-là, donc on en revient à ce qu'on se disait en off, ne pas réussir à dire non, on est confronté 2 mois après à un mur parce qu'en fait ça ne marche plus, on n'avance pas en fait, on n'avance pas dans le projet parce qu'on se rend compte qu'en fait en amont on n'a pas assez bien travaillé quelque chose de hyper important. Et du coup on a utilisé de l'énergie tous les deux, une énergie mais incommensurable, à créer des visuels et à passer 4, 5, 6 heures à créer un visuel juste parce que, en fait, la personne n'était pas d'accord avec elle-même sur l'identité qu'elle voulait donner à sa marque. Donc, moi, maintenant, ce que je fais, c'est que quand je vois que la personne n'a pas vraiment créé son identité visuelle, je lui dis, en fait, on ne va pas passer au step suivant tant que l'identité visuelle n'est pas terminée. Parce qu'il y a des étapes pour une marque, pour la création d'une marque, qui sont primordial. Si tu ne sais pas quelles sont tes valeurs, si tu ne sais pas ce que tu veux apporter à ta marque, comment tu veux divulguer la bonne parole sur les réseaux sociaux ou en parler en communiquant en fait ? C'est pas possible parce que si toi déjà tu ne sais pas ce que tu veux communiquer, comment tu veux que les autres sachent ce dont tu veux parler ? Donc, et du coup, on revient à aussi cette authenticité, de revenir à quelle est mon essence pour ensuite la divulguer aux autres. Voilà. Mais moi, ça a été un chemin énorme aussi pour moi. Enfin, tu vois, là, c'est la troisième année et mon identité visuelle, elle a évolué. Donc, en fait, comme tu disais tout à l'heure, on évolue en tant que personne et c'est bien de se lancer et d'oser. Mais parfois, il faut aussi revenir quand même de temps en temps aux bases pour reprendre sa stratégie de zéro et se dire, OK, quelle est ma cible, à qui je veux communiquer ça et à qui je m'adresse.
Oui, effectivement, j'aime bien que tu t'aies conclu par cette notion d'équilibre, c'est-à-dire oser, mais en même temps se poser les bonnes questions. Parce qu'effectivement, quand on a envie d'avoir une maîtrise totale de sa communication, de son image de marque d'ailleurs, je pense que moi, dans des personnes avec qui je travaille, il y a souvent cette notion de image de marque égale image parfaite que je maîtrise totalement. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit que oui, on a envie de véhiculer une image parfaite, mais en même temps, on n'arrive pas à transmettre à la personne qui nous accompagne ce qu'on veut. Donc, en réalité, on n'est pas du tout dans le perfectionnisme. On ne sait pas qui on est. Et souvent, justement, on veut contrôler parce qu'on ne sait pas qui on est, parce que ça va partir dans tous les sens. Et donc, c'est très intéressant ce que tu as mis en place pour faire ce frein, enfin ce blocage à l'arrivée, pour ne pas vous faire perdre du temps mutuellement et retravailler sur ce qu'on a envie, revenir à l'essence de qui on est, c'est-à-dire nos valeurs, etc. quoi. En fait, je pense que pour se détacher du perfectionnisme, une autre chose effectivement importante, c'est la connaissance de soi, dans nos qualités, dans nos défauts, dans nos travers, et toujours cette notion de maintenir l'équilibre dans ce qu'on a envie de partager aussi, quoi.
Ouais, et puis qu'est-ce que l'équilibre aussi, tu vois, parce que ça, c'est une notion
sur lequel on travaille
forcément énormément la question, et on travaille finalement au quotidien dessus. Mais qu'est-ce qu'est mon équilibre ? Parce que chaque personne a un équilibre différent. Et comme tu dis, son essence, c'est hyper important, savoir qui on est et qu'est-ce qu'on a envie de divulguer au nom, que ce soit un entrepreneur indépendant ou que ce soit une entreprise, en fait. Parce que souvent, on se rend compte que plus l'entreprise grandit, moins elle a... impliquer en fait ses salariés et ses équipes dans l'entreprise et l'essence même, et en fait tu te rends compte que quand tu poses quelques questions aux salariés, ils sont même pas en capacité de te répondre sur en fait quel est le logo ou quelles sont les couleurs clés de la marque ou quelles sont les valeurs de la marque, etc. Ils prennent leurs valeurs à eux, mais sauf que leurs valeurs à eux, c'est pas forcément les valeurs de l'entreprise. Et à contrario, il y a des gens qui font appel à moi en se disant je vais déléguer ma communication à quelqu'un pour gagner du temps. Oui, mais non, en fait, pars pas du principe que tu vas juste gagner du temps. Parce que oui, in fine, tu vas gagner du temps, mais c'est un travail long avant de gagner du temps. Et si tu n'arrives pas à déléguer, ne serait-ce que par exemple la création visuelle, donc les shootings, la création de visuels sur Photoshop, Canva, etc., donc ton identité, eh ben non, tu ne vas pas gagner du temps. Tu vas en passer plus à essayer de chercher qu'est-ce qui correspond le mieux à ta marque alors que tu as quelqu'un en face qui est là pour t'aider. Donc, je suis aussi des fois confrontée à ça par rapport à certains clients qui sont, et ils me le disent eux-mêmes, très freak control. Je crois que c'est freak control, je ne sais plus. Et qui me le disent, ils me disent, Alexandre, bon, je sais que je suis comme ça, mais donc du coup, il faut que tu sois force de proposition. Mais oui, bah, le calendrier, il est plein d'idées, mais à chaque fois que je te propose une idée, bah, tu la décales. Donc, c'est que tu as ton autre idée dans ta tête et que donc, du coup, tu ne laisses pas quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur à ton business, rentrer dans le business pour te proposer quelque chose qui pourrait fonctionner. Parce qu'en fait, quand on est dans son cocon, parfois, on a l'impression de regarder ce que font les concurrents, etc. Sauf que oui, on regarde. Mais en fait, on essaye juste de faire un copier-coller de ce que font les concurrents, alors que c'est pas ça le but. Le but, c'est de se différencier et de créer à partir de potentiellement l'existant pour se démarquer. Donc, une personne extérieure qui est experte dans ce sujet-là, elle est censée vous apporter aussi une plus-value. Donc oui, elle va in fine vous faire gagner du temps, mais c'est pas que ça. Enfin, il ne faut pas prendre quelqu'un et la payer X euros par mois pour juste gagner du temps. Il faut prendre quelqu'un pour avoir des idées neuves, pour déléguer une certaine partie des tâches, effectivement. Mais si vous savez que déjà vous, vous aimez créer, bah peut-être que ce n'est pas sur ça que la personne, elle peut vous être utile et vous aider. Donc déjà, se reposer la question, comme tu dis, qu'est-ce que j'ai besoin, qui je suis et qu'est-ce que je veux. Ça, c'est hyper important.
Bah ça me permet de rebondir sur un sujet qu'on aime bien toutes les deux, c'est l'ikigai d'entreprise. Parce que quand tu fais ce travail préalable, tu gagnes énormément de temps. Pas possible de passer 5 heures sur un poste. Déjà, la personne que tu rémunères, elle perd de l'argent. Et puis, tu lui fais pas confiance. Et ça me fait penser aussi à, dans la vie personnelle, de transposer cet exemple-là. Moi, j'ai souvent des femmes perfectionnistes qui se plaignent d'avoir une charge mentale importante à la maison, mais qui, en même temps, quand le mari va vouloir se mettre à s'occuper, tu parlais de linge sale tout à l'heure, à faire une machine, à étendre la machine. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut étendre le linge. Ouais, mais en fait, quand tu reviens tout le temps dessus, tu permets pas à l'autre de faire des propositions, de s'améliorer, de prendre sa place. Et donc, c'est pas une équipe. tu continues de vouloir contrôler et en plus, tu fais des reproches à l'autre. Donc, ce qui augmente en fait les problèmes relationnels. C'est pareil pour les collègues au boulot. Toutes les trucs où tu as du mal à déléguer, en fait, c'est pour moi un signe important fort d'une forme de perfectionnisme. Parce que tu ne fais pas confiance à l'autre, tu ne permets pas à l'autre de progresser. Ça peut être le cas avec ton enfant aussi. Hein.
Et en même temps, déléguer, moi je dis souvent à mes clients, je leur dis, déléguer c'est difficile, c'est pas facile. Enfin, c'est pas quelque chose, quand c'est ton bébé, quand c'est ton entreprise et que tu as tout créé de tes mains et que tu en as chié, ben, c'est difficile en fait, de donner quelque chose, une petite part à quelqu'un qui va, on a l'impression, alors que non, effectivement, tu le dis très bien, va peut-être pas tout détruire, mais en tout cas va tout modifier, tout ce qu'on a créé. Mais à contrario, c'est aussi bien de se renouveler, d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vient proposer d'autres choses, parce que si ça se trouve, cette personne-là, elle va vous dire, bah oui, mais ça, tu parles de ça, mais c'est quoi le but, enfin... Quel est le contexte, quel est ton, pourquoi tu parles de ça, parce que c'est pas ça que tu vends en fait, et c'est vrai. Et donc du coup moi ça a été super intéressant pour moi, tu vois, de prendre des jeunes en stage, etc. dans mon entreprise. D'ailleurs je crois que quand on avait enregistré ton podcast, oui, il y avait les filles. Absolument. Parce que du coup elle me challengeait tous les jours, elle me disait, oui mais Alexane, ok pour ça, mais attends, c'est quoi ça en fait? Et je me rendais compte qu'il y avait une confusion sur certaines choses, et donc du coup on a réajusté. Je leur ai posé la question, bah oui, mais comment vous auriez fait ça, est-ce que si ça vous le comprenez pas, qu'est-ce que vous comprenez, et comment est-ce qu'on pourrait faire pour communiquer dessus, etc. Parce que souvent, quand on est dans notre cocon, dans notre flux du quotidien, bah, en fait, on ne voit plus, on comprend puisque c'est nous. mais on voit plus que les autres peuvent comprendre. Et du coup, on cible même plus les bonnes personnes, quoi. Et c'est valable, comme tu dis, pour le quotidien aussi. Et ça m'a fait penser ce que tu as dit au lâcher prise également. Parce que, ben, mine de rien, moi, ça ne me plaît pas que mon copain, il mette son linge sale directement dans la machine. Mais en fait, si c'est plus facile pour lui parce que la douche est juste à côté, ben, qu'il le fasse, tu vois. Donc, au bout d'un moment, ben, j'ai arrêté de dire quelque chose parce qu'effectivement, après, c'était source de conflit de se dire, ben, en fait, tu ne fonctionnes pas comme moi. J'aimerais que tu fonctionnes comme moi. Et lui, à contrario, se frustrer à essayer de fonctionner comme moi alors que c'est pas son mode de fonctionnement et vice versa. Moi, je mettais dans le sac à linge ça, ça lui plaisait pas. Et donc, du coup, on se faisait la remarque, dans les deux sens finalement, pareil pour cuisiner, pour tous les trucs du quotidien. Et comme tu dis, ce qu'il faut, c'est fonctionner en équipe et donc, du coup, essayer de comprendre comment l'autre fonctionne et puis peut-être trouver des compromis, discuter, communiquer. Bah, de toute façon, on revient à la communication qui est la clé.
Ouais, c'est ça. Pour moi, t'as tout dit. Communiquer, c'est la clé, quoi. Je rebondis sur un autre truc que tu disais aussi tout à l'heure par rapport au post sur les réseaux sociaux, du fait de on veut faire un truc original, mais finalement, quand tu fais des propositions, on a tendance à retourner sur ce que les autres font parce que ça a marché pour eux. En fait, on est tous différents et souvent, quand on est perfectionniste, on va aller se comparer. Ouais, mais si ça a marché pour lui, en fait, il faut que je fasse la même chose. Ce qui est complètement ridicule avec tout ce qu'on a dit. Alors, ridicule pas au sens de juger, mais au sens de perdre du temps. Et le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Le temps qu'on perd, on le retrouve pas, en fait. C'est pas une ressource renouvelable. On va aller dire, oui, mais si ça a marché pour lui, ça a marché pour moi. Non, parce que justement, si on se fait accompagner, qu'on comprend que notre force, c'est nous, c'est ce qu'on dégage, c'est qui on est, c'est notre authenticité, on y revient toujours, et qu'on communique en ce sens-là, en partageant, en fait, qui nous sommes, et ben là, en fait, ça match. Et du coup, tout le monde a sa place et il n'y a plus, entre guillemets, de concurrence parce que on va venir chercher quelqu'un ou cette entreprise précisément pour les valeurs qu'elle défend, ce qu'elle exprime, comme ce pourquoi j'adore ton podcast et ta marque, par exemple, ou pour d'autres personnes que tu as choisi de rejoindre récemment de manière plus impliquée. Donc, oui, communiquer et authenticité, pour moi, ce sont les mots importants à retenir. Et si tu pouvais compléter tout ce qu'on vient de dire, et tu as commencé à parler de lâcher prise, comment toi tu fais pour prendre du recul dans ta vie perso et pro, justement pour lâcher prise un peu ?
Pas toujours facile, mais j'ai un exemple hyper concret. Alors, je sais pas quand est-ce que sortira cet épisode et j'espère que quand il sortira, j'aurai fini ce projet-là qui me prend beaucoup de charge mentale, mais je sais pas. J'ai un projet, comme tu le sais d'ailleurs, qui a contribué l'année dernière. J'ai mon agenda. Et donc, du coup, cette année, je refais un agenda et un outil en plus que je vendrai ensemble et que j'aimerais partager ensemble. Sauf que ce deuxième outil, ça fait 2 ans que je le prépare, il est prêt, mais je n'ose pas le sortir. Donc, il y a aussi cet aspect de oser, de croire en soi, etc., qui rentre en ligne de compte, mais ça, on en reparlera peut-être après. Et là, je me suis dit, en fait, c'est bon, c'est le bon moment. C'est maintenant qu'il faut qu'il sorte, et il faut qu'il sorte avec l'agenda pour être un outil pour accompagner toute l'année les personnes qui ont envie de s'accompagner avec la lune, avec ce développement personnel, etc. Et donc, du coup, quand tu m'as demandé quand est-ce qu'il sera sorti ton agenda, etc., donc là, il est en cours et je m'y suis pris beaucoup plus tôt que l'année dernière, mais je mets plus de temps que l'année dernière à le préparer parce que j'ai plein de choses en tête, parce que j'ai envie de faire un truc vraiment complet, etc. Et c'est là que le perfectionnisme rentre en ligne de compte parce que j'en ai jamais assez. Donc, je vais rajouter une page parce qu'il y a 6 que je pense, machin. Je vais me dire, ah oui, je vais rajouter une playlist pour chaque mois, machin, pour que les gens ils puissent écouter chaque mois une playlist du mois avec les musiques qui m'ont inspirée, machin, machin. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi rajouter tout ça alors que si tu enlevais quelques petits trucs, bah en fait, il serait tout aussi complet et l'année prochaine, tu aurais plein d'autres idées. Ou alors, te dire que, ok, la playlist du mois de février, elle n'est pas prête, mais en fait, tu t'en fiches. Tu crées juste les playlists sur Spotify, tu mets ton QR code et puis tu les remplis au fur et à mesure. Et du coup, ça permet aussi aux gens qui ont l'agenda de faire vivre la communauté en même temps et de leur écrire en leur disant « ça y est, la playlist de février est sortie » ou « ça y est, la playlist machin ». Et du coup, j'ai réfléchi à ça dans ma voiture ce week-end et je me disais « mais pourquoi se mettre une pression sur un truc qu'en fait, on est seul à se mettre la pression parce que oui, les gens m'ont demandé, ils sont dans l'attente, etc. Mais on n'est qu'en octobre et ils pourront l'utiliser qu'en janvier. Donc, de toute façon, en fait, je ne suis pas en retard. Mais dans ma tête, je m'étais dit l'année dernière, comme il est sorti mi-décembre, c'était déjà trop tard pour Noël, etc. Ben là, j'ai envie qu'il sorte fin octobre. Bon, déjà, ce week-end, je sais que je n'ai pas fini les deux, ni l'agenda, ni l'autre outil. Donc, il ne sortira pas fin octobre, c'est sûr. Après, rien ne m'empêche de faire des précommandes, de montrer quelques visuels, d'offrir certains petits trucs, etc. Et donc, c'est toute une stratégie de communication à réfléchir en fonction de soi. Mais encore une fois, cordonnier le plus mal chaussé, je vais mettre forcément en priorité mes clients et moi, faire ce travail-là pour moi plus tard, quand j'ai plus de temps, etc. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, de se dire, bah, en fait, oui, je ne vais pas respecter la deadline que je m'étais fixée parce que je mets plus de temps que ce que j'avais prévu à réaliser ce que je cherche à mettre en place. Mais non, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas grave. Et non, ça ne va pas forcément impacter les ventes ou quoi que ce soit, puisque j'ai tous les jours des gens qui me demandent « alors, machin », ce qui n'était pas le cas l'année dernière parce que je n'avais pas créé le même engouement autour de l'objet et donc de l'outil. Et de me dire, bah, en fait, là, j'en parlais justement à une copine, parce qu'hier, on a promené mon chien ensemble, et elle me dit « t'avais l'air bizarre, bah, comme toi, tu m'as dit tout à l'heure, t'as l'air fatiguée ». Et non, en fait, je ne suis pas fatiguée, je suis juste dans mon monde, dans ma petite bulle. Je ne suis pas bizarre, je suis juste dans mon truc. Et je lui dis peut-être que c'est parce que j'avais passé l'après-midi dessus. Et donc, du coup, comme il y a beaucoup d'émotions ou de choses que j'ai envie de faire ressortir, forcément, ça me fait travailler moi, personnellement. Et donc, j'étais pas forcément hyper présente à l'instant quand on promenait le chien. Et donc, elle a cru que j'allais pas bien. Donc, j'ai dit non, c'est pas ça, c'est juste que... J'étais encore dans ma petite bulle et voilà. Et bon, bref, je pars encore un peu dans tous les sens, mais tout ça pour dire que quand on a un projet, parfois, on se met en tête un truc qu'on veut atteindre et parfois, c'est pas réalisable. Et donc, du coup, cette notion encore de se dire c'est OK de ne pas avoir respecté cette deadline ou c'est OK de ne pas avoir réussi à le faire comme ci ou comme ça, et juste se dire c'est OK, ça nous enlève une pression. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui m'aide. Je crois que tu voudrais parler de yoga aussi derrière. Forcément, le yoga m'aide, mais pas le yoga dans le sens « je vais faire des postures et ça ira mieux ». Le yoga, ce n'est pas uniquement des postures et ce n'est pas uniquement de la pratique physique. C'est hier soir, je suis montée dans ma salle, j'ai allumé une bougie et je suis restée 5 minutes devant et je n'ai rien fait. Et c'était juste ça, j'ai respiré. Tu vois. Et je me suis dit, c'est cool, tout va bien, et voilà. Et juste s'écouter, et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ridicule, mais c'est pas du jugement, ne pas se juger trop sévèrement, parce que ça, c'est ce qu'on a tendance à faire dans notre société, c'est très français, et c'est très occidental, de se dire, je suis nulle, c'est pas bien ce que j'ai fait, j'ai pas respecté les délais, j'aurais pu faire mieux, non. Non, en fait, t'as fait ce que t'as fait et c'est très bien, comme ça. C'est OK. Donc voilà, et je pense que c'est comme ça que ça se matérialise au final, de se dire, oui, j'avais telle envie, j'avais tel besoin, mais à l'instant T, c'est pas réalisable comme ça, donc l'équilibre vient se faire, donc je m'écoute aussi un petit peu plus parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin, par exemple, de plus dormir, donc forcément, mon projet va pas avancer de la même manière, etc., etc. Je pourrais pas te donner, comme on entend un peu partout, là, comme on reçoit des multiples mailings de machin, 4 étapes pour lâcher prise. Non, ça n'existe pas. 4 étapes pour faire un chiffre d'affaires à 100 000 euros. Non, je n'ai pas de recette miracle et je ne pourrais pas te dire 4 étapes pour être moins perfectionniste. Non, ça, j'en ai pas. Mais par contre, dans ton quotidien, se dire que c'est OK de ne pas avoir respecté ça et juste en fait se retirer les attendus qu'on se met à nous. Tu vois. Parce qu'en fait, les gens, ils n'ont pas les attendus qu'on se met. Tu vois, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, etc. Enfin, là, tu te dis, waouh, mais elle a toute cette réflexion derrière son agenda, alors que moi, je sais qu'il sortira au bon moment et je l'achèterai quand ce sera possible, quoi. Et moi, dans ma tête, c'est pas ça. C'est non, je veux sortir à cette date-là, parce qu'il y a ça, parce que machin, parce que truc. Alors qu'en fait, toutes les personnes qui m'ont demandé, je leur ai dit, il sortira et vous pourrez l'avoir avant Noël. Et voilà, et c'est tout. Et ils sont contents, ils l'ont dans la tête, et puis quand il sortira, ils seront très contents de l'avoir. Mais moi, je me suis mis une pression. En fait, toutes ces pressions qu'on se met en termes de perfectionnisme, etc., c'est les pressions que nous, on se met à proprement parler. Mais les personnes en face, elles ne nous mettent pas du tout ces pressions-là. Et moi, des fois, j'en parle avec mon copain et il me dit mais pourquoi mais pourquoi tu fais ça? Et il me dit, mais en fait, les personnes que tu vises, ils n'ont pas à savoir combien de temps t'as mis pour réaliser ça ou ça. Du moment qu'en fait, in fine, ils l'ont dans la main, bah voilà, ils sont très contents en fait. Ils ne vont pas demander toute l'histoire du truc, est-ce que t'as galéré à trouver un imprimeur, est-ce que machin, est-ce que truc. Non, du moment qu'ils l'ont, ils sont contents.
Pour ce rappel précieux, ça me fait penser à plusieurs choses. C'est effectivement, souvent, quand on est dans le contrôle, on se convainc que les autres ont des attentes exagérées, alors qu'en final, c'est nous qui les mettons. Que souvent, on n'utilise pas la méthode SMART, SMARTER, enfin, il y a plein de déclinaisons pour savoir justement si notre objectif est réalisable ou pas, parce qu'on part direct sur « je veux ça ». Alors que c'est une montagne et qu'on ne s'équipe pas, elle compare à une heure tardive ou alors que la météo ne le permet pas en fait. Et j'entends aussi en filigrane, c'est pas assez ce que j'offre. Et dans le monde du coaching par exemple, pendant la Covid, il y avait beaucoup de coachs qui ont mis leur business en ligne avec des packages ou des vidéos en ligne, etc. et qui te donnent un prix puis qui te donnent des tonnes de bonus. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Alors, t'en as un, puis t'en as deux, puis t'en as trois. Hein, et des fois, t'as 10 bonus. Et en fait, moi, ça m'a toujours fait l'effet contraire de me dire, mais en fait, cette personne-là, moi, je suis venue chercher déjà le package de base. Ça répond déjà à ma demande. J'ai pas besoin de tonnes de trucs et de tonnes de trucs, en fait. Et c'est un peu la même idée pour ton agenda, quoi. Donc, j'aime bien, voilà, tu te réajustes, tu te dis que finalement, tu peux créer un truc super participatif. Et j'adore l'idée de pouvoir participer à ça, créer une partie de cet agenda que j'allais déjà acheter de toute manière, tu vois. Mais finalement, de se dire que quel était l'objectif de cet agenda déjà, à la base.
C'est ça.
Tu vois, plutôt que de faire des tonnes de trucs pour justifier, non mais c'est complet parce que je suis pas assez ou parce que mon produit n'est pas assez. En fait, pour moi, c'est hallucinant qu'on en vienne à se dire inconsciemment qu'on n'est pas assez, quoi. Alors là, je fais un jeu de mots, mais on est parfait comme on est, en fait, dans notre imperfection, tu vois. Bah, c'est le titre de ce podcast, hein, parfaitement imparfait, en fait. On n'a pas toujours besoin de plus. Le minimalisme, entre guillemets, qui répond à notre besoin, suffit, quoi. J'ai bien aimé aussi sur « ça n'existe pas, les quatre étapes pour arrêter d'être perfectionniste ». Tu sais le nombre de personnes que j'accompagne dans ce domaine-là. Jamais tu peux faire une liste. Déjà, on est tous différents. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, chaque jour, on évolue. Donc, en fait, ce qui était valable avant ne l'est plus. Et puis, heureusement qu'on n'a pas tous le même mode d'emploi, quoi. Donc, merci de ne pas répondre à cette injonction, genre des magazines féminins, 1, 2, 3, tu rentres dans le moule, quoi. Non.
Mais marketing en parlant, c'est ce qui fonctionne en ce moment, quoi. Et donc, ouais, mais les gens pensent qu'en fait, ils vont ouvrir plus un mail s'il y a marqué 10 étapes pour. Ouais. Donc, autant tourner ces étapes-là, c'est comme un des épisodes qui t'a un peu marqué récemment, celui où j'avais donné les leçons que moi, j'avais apprises pendant mon tour du Mont Blanc, appliquées à mon entreprise et à ma vie personnelle. Et en fait, je me suis dit, mais oui, j'ai appris des leçons, mais c'est pas des leçons. Bien sûr, les gens vont se reconnaître dedans, mais c'est mes leçons, en fait, c'est pas celles des autres. Donc, du coup, j'avais nommé cet épisode 9 leçons de mon tour du Mont Blanc. Enfin, je sais plus comment j'avais nommé
mais
ça.
C'est pas généraliste.
En gros, j'avais parlé de moi.
Et du coup, on peut picorer, on peut se reconnaître, ça peut être inspirant parce qu'on se dit « ah oui, elle est arrivée à telle prise de conscience en faisant là, on n'est pas tous obligés de faire le tour du Mont Blanc pour avoir ces prises de conscience ».
C'est ça, ouais.
Si on conclut cet épisode par une phrase avec tout ce qu'on a dit qui résume ou une autre phrase, je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais nous partager ?
Je dirais, je vais ressortir une citation que j'aime beaucoup et je crois que tu l'avais citée aussi dans ton épisode. Et qui parle un peu de perfectionnisme, c'est « Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer entre les deux. » C'est une citation de Marc Aurèle et que j'aime beaucoup et qui m'accompagne depuis la fin de ma formation de yoga, parce que je l'ai découvert à ce moment-là. Et je trouve que c'est exactement ça. C'est juste, en fait, être à sa bonne place, à sa juste place, être soi et faire faire de son mieux, mais sans se mettre de pression. Faire ce qu'on a envie de faire. Se faire plaisir. D'ailleurs, c'est ce que tu as dit au début de cet épisode. Toujours se faire plaisir. Et oser faire les choses qui nous transportent, en fait.
Merci. Effectivement, cette citation, elle devrait tous nous accompagner au quotidien. Elle est super. Et moi, je voudrais juste compléter tout ce qui a été dit pour dire que là, on arrive à 45 minutes d'épisode. J'avais dit à Alexane, ouais, on part sur un format court, parce que moi, précédemment, je fais des épisodes de 10-15 minutes. Souvent, je n'ai pas le temps d'écouter les longs podcasts où je les écoute en plusieurs fois, puis après, j'oublie ce qui a été dit précédemment, etc. Donc, je t'avais proposé un truc très cadré. Non, on ne dépassera pas, non, non. Donc, nous sommes à 45 minutes et je suis ravie, parce qu'en fait, là, on s'est autorisé à parler sincèrement, sans se prendre la tête, sans se couper, à rebondir quand on avait envie de rebondir sur les propos respectifs, etc. Et c'est ça aussi, sortir du perfectionnisme. Donc je suis contente parce que même dans mon podcast, j'ai appris plein de choses aujourd'hui et je les ai expérimentées grâce à toi. Donc un très grand merci d'être là aujourd'hui et puis à très vite.
Merci beaucoup à toi Delphine de m'avoir laissé cet espace et puis j'ai hâte de le réécouter si j'arrive à me réécouter, mais on verra. En tout cas, j'ai hâte d'avoir le retour de tes auditeurs.
À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et si vous avez envie de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous et à laisser un avis sur les plateformes de podcast. À très vite sur un nouvel épisode de Parfaitement Imparfait.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.